c'est vrai que c'est un exercice magnifique, mais c'est pas contraignant. Et je savais qu'on allait simplement s'endormir sur cet objectif.
Et c'est ce qui s'est passé.
Alors la décroissance, c'est un mot qui provoquait des réactions épouvantées il y a encore quelques années. Et pourtant, de plus en plus d'économistes, de philosophes, même je pense à Bruno Latour, et peut-être même vous, commencent à se dire qu'on n'y arrivera pas sans changer de système.
Mais encore une fois, je crois l'avoir exprimé tout à l'heure, il y a des choses par la force des comportements, des économies qui vont s'effondrer d'elles-mêmes puisqu'elles reposent sur une exploitation illimité de ressources limitées. Vous avez un livre de Guillaume Pitron qui explique qu'un certain nombre de métaux, de terres rares, vont venir à épuisement en cours de siècle. Donc il y a des choses qui, de toute façon, dans un modèle économique qui n'est pas circulaire, évidemment, à un moment ou à un autre, il va falloir anticiper la décroissance. La sortie des énergies fossiles, c'est de la décroissance. Plus vous la pilotez, plus socialement, elle sera acceptable. Et encore une fois, il y a des choses qu'il va falloir développer. Mais c'est vrai que le modèle économique actuel, et c'est là qu'il y a probablement une divergence de point de vue qui fait que tout le monde se dit écolo, mais chacun n'en a pas la même perception. C'est bien le modèle économique dominant qui a eu ses vertus, qui est la source de nos problèmes actuels. C'est un modèle qui épuise, et c'est un modèle qui concentre la richesse. Voilà. Donc, d'où la crise sociale. Et d'où la crise écologique.
Inégalité environnementale et sociale. Sonia ?
Oui, on entend beaucoup parler depuis quelque temps maintenant de Green New Deal, référence évidemment au New Deal américain en 29. Tous les candidats à la primaire démocrate en ce moment aux États-Unis proposent leur propre plan. Et on a vu en ce mois de décembre la présidente de la Commission proposer un plan ambitieux, un plan vert avec notamment une taxe carbone. Enfin, ce n'est pas vraiment une taxe, mais l'équivalent d'une taxe carbone.
On l'a appelée la taxe de Cambridge.
Aux frontières de l'Europe, ça va dans le bon sens ?
Investir massivement pour la transition écologique, ce n'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. D'abord parce que ça va nous épargner énormément dans ce qu'on appelle d'externalité négative. Quand on investit pour réduire notre consommation énergétique, parce qu'à confort égal, dans l'économie ou chez les citoyens, vous pouvez diviser par 4, par 5, par 10, parfois par 20 avec l'efficacité énergétique. Et nous avons notamment en Europe et particulièrement en France, tous les acteurs. Quand vous développez des énergies renouvelables massivement, et pas encore une fois dans l'épaisseur du trait, c'est autant d'argent que vous ne mettez pas à l'extérieur pour importer l'énergie, que vous mettez à l'intérieur. Et comme à terme, le vent, le soleil, le mouvement des vagues, les courants océaniques sont gratuits, eh bien c'est autant d'économies que vous ferez. Mais il faut y aller plein pot. C'est un plan Marshall. Et effectivement, ce qu'on réclame depuis très longtemps, et je suis content d'en avoir un écho au plus haut sommet de la Commission européenne, quand en 2008, il y a eu la crise financière, les dogmes ou les intégrismes économiques, personne n'en a tenu compte. Nous, ça fait très longtemps qu'on propose soit de faire tourner la machine à billets, soit de creuser la dette, de remplacer la vieille dette par de la nouvelle dette. Parce que, encore une fois, tout ça n'est pas de la perte. Au contraire, c'est de l'investissement durable.
Pour les générations
durable, pour les générations futures. Parce que, effectivement, ce que disait tout à l'heure, je pense...
Hervé Kempf ?
Non, c'était non. Pas Hervé Kempf, peu importe. Guillaume Saint-Denis, pardon, je cherchais son nom. C'est ce que nous disait Nicolas Stern, c'est que le coût de l'action est beaucoup plus rentable que le coût de l'inaction. C'est un point de PIB pour agir, 4, 5, maintenant on est à 10 points de PIB pour subir.
Alors, 2000 à Hulot, les actions citoyennes, chacun fait sa part. Est-ce que vous êtes végétarien d'ailleurs ? Est-ce que vous êtes décroissant d'un point de vue de consommation de viande ?
Oui, la viande, oui, mais vous voyez, dans la famille, on est 5. 2 végétariens, 3 flexitariens.
Ouais, donc ça va.
C'est déjà pas mal, non, mais c'est bien.
Ouais. La désobéissance civile, il y a eu l'émergence de ce mouvement Extinction Rebellion, au-delà juste de ce mouvement spécifique. Vous soutenez la désobéissance civile au nom d'une éthique ?
Chacun choisit son mode d'action. Donc, je n'ai pas apporté de commentaires. Moi, compte tenu du rôle que je joue, de dialogue, d'intermédiaire, etc., j'essaie de rester dans une certaine légalité. Mais je vais juste lancer un petit message d'alerte quand même. On voit bien que la mobilisation, l'inquiétude, elle a changé de forme, elle a changé de ton. Elle reste globalement bon enfant. Bon. Mais il faut faire attention, parce que ce sont des sujets qui vont devenir de plus en plus, prégnants, douloureux. Vous savez, même chez nous, les gens qui autrefois se prenaient une inondation toutes les décennies, maintenant s'en prennent 2-3 par an.
On l'a vu dans le Var.
Donc il y a un moment ou un autre, ça va changer de ton. Parce que, et moi évidemment, j'exhorte que la violence reste de côté parce qu'elle est contagieuse, elle ne mène à rien. Mais c'est une forme de violence que de ne pas écouter, que de ne pas entendre, que de ne pas réagir, d'être surinformé sur une tragédie qui est en train d'émerger. Et je ne vais pas dire de rester croisé, parce que ça serait évident. Mais il y a un moment ou un autre, je l'ai dit l'autre jour dans une formule, mais je l'assume, on est dans une situation de guerre. voilà, de guerre contre nos excès. Si nous étions démunis, bon, à la limite, on ferait céder à une forme de fatalisme et, comme le dit le sociologue, céder à la tentation de la ruine, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Mais nous avons les moyens. Ce qui nous manque, c'est une volonté et une intelligence collective. Et quand je vois dans notre pays et en Europe cette culture du ring, de la confrontation, de la politique partisane, alors qu'honnêtement, même économiquement, ne me disons pas qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent parce qu'on ne va pas le chercher là où il est ou qu'on ne le flèche pas là où c'est urgent. Donc, il y a un moment ou un autre, c'est un changement, pardon, mais d'état d'esprit qu'il faut opérer. Sinon, je le crains. Je crains que demain, il y a, vous savez, l'histoire nous montre qu'on n'est jamais civilisé en profondeur. Gardons ça à l'esprit.
Vous dites qu'il faut une volonté politique. Le gouvernement a voulu, eh bien, obliger la consigne plastique. Ça devait être d'ici 2023. C'est finalement 2040. Certains disent que c'est parce que les élus en ont besoin. C'est une manne financière. Est-ce que vous y voyez les élus ou les lobbies?
Non, mais qu'on ne fasse pas les choses brutalement. Vous savez, si on veut engager une transition, c'est ce que je souhaitais, il faut trois principes. De la prévisibilité, de l'irréversibilité, parce que si on a un doute que les règles vont changer, on n'investit pas pour le changement, et de la progressivité pour mettre personne dans une impasse. Il y a des choses qu'on peut faire en 3-4 ans, comme sortir du glyphosate. Il y a des choses pour sortir des véhicules thermiques, il faut les mettre en 2040. Il me semble franchement que pour l'usage des plastiques uniques, depuis le temps qu'on en parle, le système, le modèle économique aurait vraiment pu s'y préparer. Ce n'est pas un très bon signal de mettre en 2040. Mais encore une fois, je ne...
Mais la faute à qui, au lobby, à votre, du plastique,
oui,
ou pas?
Oui, ouais. Évidemment. Mais on a toujours une bonne raison. On a toujours une bonne raison. Sauf que, vous savez, il y a un moment ou un autre, on se dit que la parole de la science, personne ne l'écoute. Qu'est-ce que nous dit la science? Qu'on a 10 ans pour éviter l'irréversibilité des phénomènes. Qu'est-ce que ça va paraître dérisoire que quand on regardera l'histoire, de s'être entêté dans un certain nombre de choses. Franchement, vous mettez ça pour 2030, la filière sera, surtout, encore une fois, si les acteurs ont bien la certitude qu'on ne changera pas la règle du jeu, parce que la contrainte n'a jamais été l'ennemi de la créativité.
La contrainte peut favoriser la créativité. Absolument. Une dernière question rapide. Certains maires ont refusé les épandages à des distances trop proches des habitations. C'est de la désobéissance civile, il faut les soutenir.
Alors, encore une fois, je n'ai pas officiellement sur un plateau de télévision, mais je peux comprendre. Je veux dire, je peux comprendre. Quand vous voyez, comme moi je ne vis pas en ville, mais chacun a pu voir ce spectacle, un agriculteur dans une tenue de cosmonaute passer avec son tracteur le long de clôtures, où il peut y avoir une école ou des lotissements, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Donc c'est vrai que quitte à faire quelque chose, si ce n'est pas dangereux, bah, alors, il n'y a pas besoin de mettre de... Là, on interdit, l'agence sanitaire, 40 substances, oui, produits qui utilisent du glyphosate. C'est une reconnaissance, après avoir dit le contraire, que quelque part, il y a un problème avec le glyphosate. Donc il y a un moment et un autre, il faut être cohérent. C'est blanc ou c'est noir. C'est dangereux ou ce n'est pas dangereux. On a un principe dans notre constitution, et j'y étais pour beaucoup, c'est le principe de précaution. On ne le met jamais en œuvre.
Merci Nicolas Hulot. Merci.